Je rappelle, dans le retour, on est choyés. Je trouve qu'on a des partners de longue date qui nous mettent du plomb dans la tête, dans le bon sens du terme, puis avec qui c'est le fun de déconner. Puis j'aurais adoré qu'avec lui, on fasse une chronique aujourd'hui sur, je sais pas moi, l'économie de Marvel ou l'économie du Super Bowl ou n'importe quoi. Mais finalement, il y a un monsieur qui, lui, pendant son voyage avec Air Force One, a fait « Non, on va continuer à parler de tarifs douaniers. » La semaine passée, quand on a parlé avec Francis Gosselin, docteur en économie, Francis a carrément lâché un sacre en ondes tellement qu'il était découragé de la situation et la quantité de textos qui sont rentrés au 418-971-102 en disant « ça a tellement fait du bien de l'entendre, démontrer à quel point tout ça est irrationnel. »
J'en reviens pas que j'ai manqué
ça. Puis
de
voir à quel point c'est décourageant. Puis dans le moment où on avait raccroché avec Francis, c'est le moment où on a reçu la confirmation de Justin Trudeau qu'on avait un sursis de 30 jours sur le mur à mur de 25 % pour le Canada. Et là, paf, en pleine journée de Super Bowl, on nous arrive avec le jour de la marmotte, un 25 % de tarif sur l'acier et sur l'aluminium partout dans le monde, à quelques exceptions près, qui sera imposé à partir du 12 mars. Fait qu'on n'a pas le choix. On va revivre le jour de la marmotte avec Francis Gosselin qui devra me démêler à travers tout ça. Salut Francis, ça va bien?
Ça va très bien, et vous?
Oui, es-tu un peu moins découragé que la semaine passée ou t'es comme, t'as lâché prise?
Ça dépend des jours, ça dépend des heures. j'alterne entre des moments d'euphorie et des moments de panique. Mais bon, ça va, je me maintiens entre ces deux extrêmes pour l'instant.
Quand on s'est mis à parler de ces nouveaux tarifs-là qui vont être appliqués, c'est Max qui faisait nos nouvelles hier, puis il disait « Oui, mais c'est déjà arrivé au premier mandat de Trump. Ça a été appliqué pendant pratiquement un an à quelques détails près. Là, on avait 2018. Un 25 % sur l'acier puis un 10 % sur l'aluminium. » On a-tu appris de ça, Francis, ou là, on se retrouve dans la même mosuse de situation qu'effectivement, il y a 7 ans de ça?
Ben, on a un peu appris, mais en même temps, pas tant. Je veux dire, malheureusement, l'enjeu avec ces industries-là, l'acier et l'aluminium en particulier, c'est que c'est des industries très, très lourdes. Hein. C'est pas on ne peut pas construire une aluminerie là, en 6 mois. Là. Ça prend des années à mettre en place, acheter les terrains, les cuves, les approvisionnements énergétiques, évidemment. Puis ça, c'est bon, la production, mais ensuite, il y a tout le volet transformation. Puis historiquement, parce qu'il n'y avait pas de frontières ou en fait, il n'y avait pas de douane entre le Canada et les États-Unis, ben, on a comme une entente entre partenaires, hein, c'est-à-dire qu'on envoie de l'aluminium plus ou moins brut.
Mm-hmm. Les lingots,
vers les lingots, là, puis eux le transforment. Puis bon, on a un peu de capacité de transformation ici au Québec, en Ontario, mais c'est négligeable. La quasi-totalité, là, se retrouve là-bas. Puis ce qui est un peu paradoxal, d'ailleurs, c'est que là, si ça va de l'avant, là, le 12 mars, ben, on va vendre de l'aluminium brut, là, en lingots aux Américains, ils vont faire des canettes de bière et de Pepsi, puis ils vont nous revendre ces canettes-là 25 % plus cher, parce que ce qui est un peu ridicule quand on y pense.
Parce que, tu sais, tu viens de répondre un peu à une de mes questions. Moi, j'ai grandi au Saguenay. Mon père a travaillé à l'Alcan, il travaillait du côté du centre de recherche, puis là-bas, il y avait chaque fois des projets de « Hey, comment on fait pour faire de la feuille d'aluminium qu'on va être capable d'utiliser plutôt que justement faire ces allers-retours-là? » Fait que c'était vraiment juste le bon voisinage qui a fait qu'on n'a jamais mis en place de transformation de ce produit-là.
Oui, ben puis tu sais, j'aime pas utiliser le mot paresseux parce que c'est pas une paresse au sens du travail.
Non, c'est du bon voisinage, là, simplement.
C'est du bon
là.
Voisinage, puis c'est aussi comme on pensait pas que c'était possible. Fait que c'est sûr que quand tu as une facilité, puis tu sais, c'est la même situation dans le bois d'œuvre, c'est la même situation dans plein de domaines. Quand tu as une facilité à échanger avec quelqu'un qui est un partenaire de longue date, qui est ton voisin, où les coûts de transport sont relativement faibles, pourquoi est-ce que tu te casserais la tête à bâtir des capacités propres, etc. Dans la mesure où c'est presque considéré comme la même économie. Mais là, ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a une frontière, il y a la possibilité d'instauration de tarifs douaniers. Et surtout, pour moi, tu sais, je le dis depuis des années en chialant sur M. Legault puis M. Trudeau, évidemment, M. Trump est dans la continuité. Ce qui me choque le plus, c'est que c'est immédiat.
Oui.
Moi, que M. Trump ou n'importe quel président, pour des raisons stratégiques de protection de son industrie, veuille, sur une période de 5 ans, imposer des tarifs sur certaines industries, nous laissant le temps de bâtir des capacités, de réagir, etc., à la limite, c'est leur droit le plus absolu. Mais là, de faire ça toujours à un mois de préavis, à 3 jours de préavis, c'est
comme
très, très difficile de réagir. Oui, exact. Puis encore une fois, là, tu sais, là, on a, je pense, jusqu'au début mars pour tous les tarifs, puis on a jusqu'au 4. 12 mars pour ces tarifs-là. Puis c'est comme incompréhensible, ce calendrier-là, pour moi. Les autres tarifs qui couvraient l'aluminium initialement, tu sais, T'sais, le 4 mars, on s'est-tu sur l'aluminium ou non, c'est le 12 mars. Mais tu sais, vous comprenez que
Ah oui,
même
c'est
moi, je ne
flou,
comprends
là.
pas le calendrier. Puis les premiers tarifs, c'était fentanyl et immigrants, sur
Là,
lesquels
on a un tsar, on est censé être correct,
on a un tsar.
là.
Mais tu sais, franchement, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Je comprends plus en fait la logique. Puis là, écoutez, bon, je suis évidemment ça quotidiennement, plusieurs fois par jour. Il y a le Wall Street Journal qui est comme un journal plutôt de droite, là, tu sais, qui est quand même assez rigoureux en matière d'économie et qui est dans une espèce de guerre contre Donald Trump depuis quelque temps. J'en avais parlé, ils ont écrit cet article disant que c'était la guerre tarifaire la plus stupide de l'histoire de l'humanité. Et ils en ont remis aujourd'hui, mais là, c'est très détaillé. Quand il y a eu les tarifs en 2018 sur l'aluminium et l'acier, ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, tu as des fabricants américains qui font, qui sont rivaux là, de nos alumineries au Saguenay, puis à Baie-Comeau et tout ça. Et donc, eux, c'est sûr que quand ils voient ça, de l'aluminium qui arrive de chez nous, qui est soudainement tarifé de 25 %, qu'est-ce qu'ils font?
La manne,
Ils
ben
augmentent leur prix de 20 %, fait qu'ils sont encore moins chers, mais ça leur permet d'augmenter leur prix. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils fourrent tout le monde. Harley-Davidson, les manufacturiers, les fabricants d'équipements agricoles, n'importe qui utilise de l'acier et de l'aluminium, ce qui est pratiquement toute l'industrie là, t'sais, un peu avancée aux États-Unis. Et tout ça se reflète dans, ben là, on voyait le Ford F-150, il va être 1 500 $ plus
oui.
cher. Les machineries pour les agriculteurs. Puis t'sais, beaucoup de ces gens-là là, qui ont des pick-up, puis des tracteurs, puis d'autres équipements, des convoyeurs à patates, puis des extracteurs à carottes, ben, guess what? Il y a beaucoup de MAGA là-dedans, il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Donald Trump. Donc, c'est comme c'est se tirer vraiment dans le pied, c'est marqué dans son
Un peu
propre
ironique,
but.
là.
Puis, M. Trump, ben, ce faisant, il enrichit une poignée de monde qui sont des gros opérateurs d'acier et d'aluminium, mais on comprend pas vraiment la logique qu'il y a derrière tout ça. Puis, qui plus est, dernière affaire, ces gens-là qui vont faire des surprofits là, faramineux pendant la période où les tarifs seront. Ils vont pas rémunérer leurs salariés
Ah non, ils
davantage.
augmenteront pas les salaires, ils mettront pas
Non,
ça dans la
non,
communauté. Non, c'est pas
non.
le bon peuple qui va en profiter, Francis, mais tu me surprends,
Non, ben non,
évidemment.
fait que tu sais, je me dis là, à un moment donné, puis je peux pas, mais tu sais, c'est sûr que, bon, le Canada a plus à perdre que les États-Unis, là. Ça, je l'ai dit plusieurs fois, on est une plus petite économie, ceci va nous faire très, très mal, mais c'est que l'affaire, c'est qu'on le sait, là, les élections, ça s'est joué à 49-51, là, au suffrage universel. Bon, il a gagné tous les États, il a gagné le Sénat, mais il y a des midterms là, dans 20 mois. Puis je vous garantis que tous ces gros fermiers, là, puis t'sais, on sait que les fermes aux États-Unis, c'est des grosses fermes. T'sais, ces gens-là là, qui perdent des millions de dollars là, de poulets puis de vaches, là, ils vont appeler le gouverneur, puis ils vont appeler le sénateur. Puis hey, t'sais, qu'est-ce que tu me fais là, avec à ne rien dire quand le président républicain prend ces actions-là? Fait qu'il va commencer à avoir une pression, là, émergente, là, des agriculteurs, des PME manufacturières et tout ça. Puis ça pourrait faire très, très mal à la base républicaine de Donald Trump. Puis là, pour l'instant, les sénateurs, les congressistes disent rien, font comme si tout allait bien, mais c'est intenable, à mon avis, là, à court terme, il y a quelque chose qui va se mettre à briser dans ce
C'est
système-là.
intéressant. Tu as dit tantôt, Francis, si on va de l'avant, on dirait que ça a retenu mon attention. Penses-tu qu'il y a possibilité qu'on n'ait pas de l'avant le 12 mars prochain?
Je sais pas, encore une fois, tu sais, c'était le fentanyl de l'immigration qui est un faux prétexte. Fait que là,
On a changé d'idée à 5 heures d'avis, là.
le 4 mars, ça va-tu être d'autres choses ou il va finalement décider qu'on en a fait assez puis que notre tsar du fentanyl est assez cool pour à son goût? Je sais pas, tu sais, on sait pas.
Il est
Puis
imprévisible.
de même pour l'aluminium, tu sais, j'ai cru comprendre, il faudrait vérifier le chiffre, mais que 60 % de l'aluminium consommé aux États-Unis vient du Canada, là. C'est comme.
C'est 90% de la production canadienne d'aluminium
Est
qui
exporté,
est
mais
exportée.
eux, ce qu'ils utilisent là-bas, c'est comme 60 % de leur
Exact.
consommation annuelle. Ce qui veut dire que ça va avoir un impact dévastateur. Donc, par exemple, on fabule, est-ce que ça se pourrait que M. Trump, le 12 mars, qui est après le 4 mars, là, je réitère que je suis très confus dans le calendrier, est-ce que ça se pourrait que le 12 mars, il décide que le Canada est exempté, par exemple, parce que c'est son plus gros partenaire puis qu'il veut pas faire. Tu sais,
Ou de les diminuer à 10% comme ça avait été le cas en
Et là, ça
2018.
ferait mal à l'Europe, ça ferait mal, mais. Puis une affaire qu'il faut savoir, là, puis tu sais, encore une fois, pas facile à mettre en place parce que tout ça, c'est des contrats de long terme. Puis tu sais, on parle d'industrie lourde, mais l'aluminium, en l'occurrence, l'assurance, ça s'exporte. Tu sais,
Ben,
pas simplement, mais ça s'exporte vers l'Europe, ça coûte plus
c'est là
cher.
que je voulais aller avec toi parce que quand on a parlé de l'énergie, c'est plus difficile d'exporter notre
Ah ben oui.
énergie. Tandis que là, on arrive avec de l'aluminium, il y a des besoins absolument partout dans le monde. La stratégie à court terme, au lieu de tenter de pénaliser les États-Unis, est-ce que c'est justement de développer ces marchés-là puis s'assurer qu'il y a une pérennité dans cet échange commercial?
100%, puis sauf que les Européens sont eux aussi aux prises avec la barrière tarifaire, là, ça couvre vraiment tous les partenaires commerciaux. Et donc là, ce qui risque de survenir, c'est qu'en Europe, ils vont se retrouver avec de la surcapacité en matière d'aluminium et d'acier. Fait que là, est-ce qu'ils vont être heureux de recevoir le nôtre? Je suis pas certain. D'ailleurs, sur les marchés là, européens, on a vu le prix de la tonne d'aluminium chuter là, d'à peu près 15% depuis quelques jours, parce qu'on s'attend en Europe à se retrouver avec une surcapacité et de l'aluminium canadien qui débarque sur les marchés. Fait que c'est sûr que beaucoup plus d'offres avec une demande constante, ça risque de faire baisser son prix. Et donc là, il va falloir voir entre la baisse de prix de l'aluminium européen plus les surcoûts de transport, est-ce que ça, c'est moins que 25% de tarifs? Tu sais, c'est des calculs là, rendus là que je perds mon latin un petit peu, là,
Là,
je
qu'est-ce qu'on
trouve.
veut forcer avec ça? Est-ce qu'on veut forcer tout de suite renégocier l'accord de libre-échange? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière ça ou c'est juste on lance des spaghettis sur le mur pour voir s'ils sont bien cuits puis s'ils collent, là?
C'est un peu ça la stratégie, là, assurément, là, c'est de voir, tu sais, puis je pense que M. Trump, bon, il démultiplie les actions, là, tous azimuts. Je pense qu'il essaie de tester les limites, dans une certaine mesure, de son pouvoir, tester les limites des dommages qu'il peut faire sans qu'il y ait de contre-coup. Puis que c'est là où je dis, à un moment donné, pour l'instant, tous les élus républicains sont complètement muets, sur toutes les tribunes. Personne n'ose le critiquer. Ça se dit, là, je le lis de plus en plus sur des médias américains. Que sous couvert de l'anonymat, là, tout le monde est terrorisé, personne n'ose prendre la parole, mais il suffit qu'à un moment donné, il y ait un groupe de 10, de 15, de 20 congressistes qui se disent « Hey, guys, là, faut arrêter tout ça, je veux dire, on va perdre notre... » T'sais, ultimement, c'est égocentrique, on va perdre notre siège, là, t'sais. Puis là, qu'ils se mettent ensemble, puis là, à un moment donné, quand c'est 20, quand c'est 30, M. Trump pourra... En ce moment, l'affaire, c'est que chaque fois qu'un républicain sort la tête de l'eau pour dire hey, 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 M. Trump envoie Elon Musk X de la publicité négative,
C'est
t'sais,
vrai.
il anéantit la critique. Mais si demain, il y a 30, 40 élus républicains qui se mettent ensemble pour dire il faut que ça arrête, je pense que M. Trump va être un petit peu plus à l'écoute, certainement.
On n'a pas de contrôle sur ce volet-là. Par contre, de notre côté à nous, il y a certains éléments qui reviennent dans la conversation. Puis je suis vraiment curieuse de t'entendre si on parle d'acceptabilité sociale versus développement économique, parce que là, les termes d'oléoduc comme GNL Québec, Énergie-Est sont revenus dans la conversation. Est-ce que ça vaut la peine de les ramener à la vie? Puis à un certain moment donné, si on se rend compte que, ben c'est beau là, de penser à l'environnement puis tout le kit, mais notre économie, ça serait le fun qu'elle soit là pour qu'on puisse avoir un filet social. Je me doute de ta position là-dessus, mais quand même, je veux t'entendre.
Ouais, je suis un peu ambivalent là-dessus, honnêtement. Tu sais, c'est sûr que la consommation pétrolière américaine, elle est constante et croissante, là. Fait que oui, il faut tenter de minimiser les dégâts. Mais là, le problème, c'est que l'Alberta produit énormément, puis a pas d'autres débouchés, là. Il y a peut-être un peu moins d'un million de barils par jour qui vont par Trans Mountain, mais tout le reste, là, 80% à peu près de la production est envoyée aux États-Unis, ce qui nous rend complètement captifs, là, prisonniers, là, de cette relation. Fait que je peux comprendre que d'un point de vue canadien, on puisse vouloir raviver le projet d'envoyer du pétrole à l'Est, mais comme tu le dis, acceptabilité sociale, je sais pas. Sur le pipeline vers l'Est, honnêtement, puis, ça dit en passant, il y en a un pipeline qui va vers l'Est, c'est juste qu'il passe, fait un croche par les États-Unis, puis il remonte vers l'Ontario après. Fait que de le faire passer tout droit, puis même de le prolonger un peu jusqu'au Québec, je pense pas que ça va se faire, mais je crois qu'il faudrait le regarder de manière un petit peu plus rationnelle qu'on l'a fait dans le passé. Pour le gaz naturel liquéfié, honnêtement, j'embarque pas là-dedans. Ma raison est de second ordre, c'est que ça reste des énergies du passé, là. Fait que, tu sais, bon, l'Alberta fait ce qu'elle le fait, puis je veux pas porter de jugement, mais mettons que j'avais un dollar à investir entre nous, on voit ce qu'ils font en Chine avec les panneaux solaires, avec les batteries, avec les voitures électriques. Comme moi, me dire qu'on va prendre des milliards de dollars de notre argent actuel, d'endetter notre État, puis d'investir dans une technologie du passé comme le GNL, je me dis, pourquoi on met pas des panneaux solaires mur à mur partout au Québec avec le même argent? Puis, comme vous le savez, une technologie comme ça, plus on va en faire, moins ça va coûter cher par unité, par
Effectivement.
kilowattheure. Fait que je me dis, c'est comme un coût, les économistes diraient que c'est un coût d'opportunité, en fait. Je ne dis pas que c'est des mauvais projets, mais c'est juste que là, à chaque jour, à chaque année qu'on n'investit pas dans les technologies renouvelables du futur,
On pèle par en
on prend
avant,
du
ouais.
retard. Mais pas juste ça, on prend du retard technologique sur les leaders. Puis, il y a un truc qui m'a choqué, moi, en regardant un peu ça cette semaine, l'Allemagne, après la Chine, est le deuxième pays où il y a le plus de panneaux solaires au monde, et ils ont comme 30% de moins de soleil que nous, là. Fait qu'à un moment donné, c'est juste une question de comme se motiver. Puis tu sais, j'ai rien à vendre, je suis pas un fan de panneaux solaires, mais
Non, t'as pas
juste.
une business de panneaux solaires.
Si on avait commencé ça il y a 10 ans, on serait peut-être des leaders mondiaux dans ces énergies-là. Alors que là, on regarde GNL Québec. Puis encore une fois, tu sais, je dis pas
Manque
qu'il n'y a
de
pas de vertu à
vision.
ça, mais juste, ça me semble être une vieille technologie. Puis tu sais, de perpétuer l'investissement, puis améliorer. Tu sais, je disais ça, là, ils veulent décarboner le pétrole albertain. Je suis comme, oui, je comprends qu'on veut utiliser moins de pétrole pour faire du pétrole, là, mais à la fin, c'est comme un drôle d'investissement. Tu sais, on devrait investir dans la géothermie, les éoliennes, les panneaux solaires, les batteries, tu sais, ce qui me semble être. Sur un horizon de 20 ans, beaucoup plus porteur de rendement puis de croissance que de continuer à investir beaucoup dans les énergies pétrolières.
Francis, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il faut se stocker des œufs à la maison comme on sait stocker du papier de toilette en 2020?
Non, non,
Okay.
non. Non,
La fameuse
mais.
inflation des États-Unis là, avec la grippe aviaire
Hey,
là-bas puis la hausse des prix.
14 $ la douzaine en
C'est
dollars
débile. Ça a
canadiens, hein?
quasiment
Fait
doublé,
que.
là. Ouais.
Ça a doublé. Au Canada, ça a augmenté d'à près 10% l'année dernière. On est sous un système pan-canadien de gestion de l'offre. Donc, les quantités sont déterminées. Le prix est déterminé. Puis, il a augmenté là, de 3,50 à 3,75 la douzaine l'année dernière. Fait que oui, c'est comme 6-7%, ce qui est à peu près l'inflation. Mais ça risque pas d'augmenter autant cette année. La grippe aviaire aux États-Unis fait très mal parce que les installations, les fermes aviaires américaines sont gigantesques. Hein? La taille moyenne d'un cheptel en Ohio, par exemple, c'est 2 millions de poulets.
Fait que quand ça pogne là-bas, c'est le 2 millions qui y passe pratiquement, là.
Puis, tu sais, il y a un voisin qui en a un autre 2 millions. Chez nous, ben, déjà, le territoire est beaucoup plus vaste. Puis, la taille moyenne, c'est 25 000. Tu sais, fait que ça n'a rien à voir, là, quand ben, même que tous les poulets mouraient, ben, c'est pas drôle. Fait que là, les Américains ont tué 19 millions de bêtes. C'est sûr que ça atténue un peu le côté offre, alors que chez nous, pour l'instant, c'est des cas isolés, surtout en Colombie-Britannique. Fait que non, je suis pas trop inquiet.
Parfait.
Ceci dit, petit calcul là, sur la napkin, si jamais ça vous intéresse à la maison, Audrey est au courant. Mon oncle Michel à Deschambault s'est fabriqué un poulailler 2-3 ans.
Il y a combien de
Des
poules dedans?
5 poules,
OK.
quelques 2 par 4, tu sais, un toit, un petit chauffage, ça coûte pratiquement rien à faire. Il faut un permis de la ville, là, évidemment. Mais il y a 5 poules qui font pas mal 5 œufs par jour. Honnêtement, j'ai fait le calcul, c'est comme un des meilleurs investissements que vous allez faire de toute votre vie, là. Oubliez ça, le CELI, le REER.
Il est
Imagine.
cher, une poule. C'est pas
Ah
si
non, non,
pire.
mais. Hey, un œuf par 5 œufs par jour, là, une douzaine par 2 jours, là, c'est incroyable comme rendement. C'est comme 15$ par semaine. Ta poule est remboursée là, en quelques
Imagine
jours.
si tu fais chauffer ton poulailler
Incroyable.
avec un panneau solaire en plus de ça, Francis. On
Imagine.
vient de
Tout est
faire
dans
le
tout.
tour. Hey, Francis Gosselin, docteur en économie, merci beaucoup. On continue à te lire dans le Journal de Montréal, Journal de
Yes.
Québec, puis on t'entend sur les ondes du 99.5 du côté de Montréal. C'est toujours super le fun de te parler.
Ça fait plaisir.
À bientôt.
Merci.
Vous
Bye-bye.
écoutez Gravel dans le retour sur les ondes de Boulevard 102. Il y a d'ailleurs de la circulation, Audrey. Peut-être jeter un œil rapidement.
Oui, quelques affaires à vous dire. Il y a un auditeur qui nous dit que sur la 73 Sud, il y a un accident à l'échangeur du parc des Chutes. Ça roule, mais il y a des débris un peu partout. Faire attention dans ce coin-là. Sinon, la 73 Sud, fin de l'accès provenant de la rue du... Ben, c'est ce que je viens de vous dire. Parc des Chutes, il y a un accident.
Non. Elle est prise dans une loupe.
Oui, c'est un... Non, mais là, j'ai les informations plus officielles du 5-1-1. Ensuite de ça, là, ancienne direction sud, la sortie vers le boulevard Louis XIV, partiellement entravée, c'est une panne de ce côté-là. Il y a une autre panne sur la 40, donc Charest Ouest-Est, pardon, à la hauteur de Duplessis, la voie de droite qui est partiellement entravée. Évidemment, s'il y a quoi que ce soit d'autre, ça passe par le 418-971-1021.
On parlait du prix d'une poule, puis je trouve que Véro vient de texter quelque chose d'inacceptable dans notre groupe à trois. Là. Elle dit « Une poule, ça coûte surtout cher à Saint-Valentin. » Véro, je trouve que t'es allé beaucoup trop loin.
Elle essaie de faire passer mes dos sur mon dos. Maxime Larouche, meeting dans les prochaines minutes.
Vraiment, tu perds ta job, Max.
Moi, je pense que oui.